non pas simplement d'une manière dévotionnelle, comme on vous l'a peut-être appris, il faut que vous ayez lu un texte de l'Écriture chaque jour, et puis comme cela alors, il ne vous arrivera rien dans la journée. Vous avez lu votre Bible ce matin, vous êtes tranquille, c'est le paratonnerre. C'est faux et c'est archi faux. Oui, lisez chaque jour une portion de l'Écriture, mais ne pensez pas que c'est avec cette petite portion que vous allez grandir dans la connaissance de notre Dieu, de ce Dieu à qui nous devons nous donner notre cœur. Il nous faut être de ces hommes qui lisent la parole depuis la première page jusqu'à la dernière. Et quand nous l'avons lu ainsi, nous recommençons encore. Nous ne nous arrêtons pas sur les difficultés, mais chaque jour et à chaque lecture, nous voyons que cette parole nous devient familière et qu'elle s'illumine. Ne dites jamais « Oh, mais moi j'ai déjà lu cela ». Chaque fois que vous relisez la parole de Dieu, comme elle est vivante, comme elle est opérante, eh bien, vous recevrez une bénédiction, vous recevrez une instruction, vous recevrez aussi une correction, parce que nous sommes terriblement oubliés. Et tout à coup, la parole nous revient. Et vous savez, c'est ainsi que vous devenez des Bibles vivantes. La parole n'est plus simplement des textes qui sont dans un livre, mais ces textes s'inscrivent en vous, dans leur chair mortelle. Même si vous me dites que vous n'avez pas de mémoire, ça n'a pas d'importance. Le Saint-Esprit, quand il vous voit lire la parole, il devient vraiment votre mémoire, et c'est lui qui, dans l'auto que vous conduisez, dans votre travail quotidien, peut-être dans vos tâches ménagères, le Saint-Esprit, tout à coup, vous rappelle, quand vous avez la Bible proche, vous rappelle une parole qui est pour vous un encouragement, une force, un soutien, une lumière à vos pieds et une lampe sur votre sentier. Que vous puissiez vraiment en faire l'expérience. Et vous direz alors, comme le prophète Jérémie, oui, ces paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, et elles ont fait les délices et la joie de mon cœur. Ou comme le psalmiste qui pouvait dire, ta parole m'a fait vivre. Voyez-vous, la parole ne nous tue pas. Elle nous fait vivre. Nous voulons prier. Ô Dieu, en ouvrant ta parole, nous réclamons la dépendance de ton esprit pour éclairer notre intelligence. Tu nous l'as promis, car tu as dit que ta parole donnait de l'intelligence aux simples. Nous ne venons pas ici avec toute espèce de prétention. Nous venons ici avec des cœurs d'enfants. Nous voulons nous laisser enseigner, non pas par un homme, mais par ta parole, par les Écritures auxquelles ton Saint-Fils a pu rendre témoignage. Toutes les Écritures parlent de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Et tu as dit aussi que tu donnerais ton esprit qui prendrait ce qui est à toi pour nous l'annoncer. Et l'apôtre Paul a pu dire que tout ce qu'il a écrit, il l'a vraiment reçu du Seigneur. Et c'est ce qu'il a reçu du Seigneur qu'il nous a enseigné. Et l'apôtre Pierre pouvait lui aussi témoigner que ce n'était pas des fables qu'il racontait, mais qu'il avait été témoin oculaire de cette majesté divine. Et l'apôtre Jean lui-même aussi pouvait dire ce qui était des commencements, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Et nous te bénissons parce que cette parole est une parole de vie. Cet après-midi, elle soit esprit et vie pour tous nos cœurs et pour ta seule gloire. Amen. Eh bien oui, hier soir, nous devons considérer notre premier sujet, Dieu dans les cœurs. Cet après-midi, dans ce premier moment, nous allons à développer Dieu dans la famille. Puis, si nous arrivons à ce soir, parce qu'il est possible que nous n'y arrivions pas parce que je me sens mal, mais même si on ne se sent pas mal, le Seigneur peut nous reprendre, si c'est sa volonté, si c'était notre dernier jour. Mais mieux que cela, ce n'est pas la mort que j'attends avant ce soir, c'est son retour. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais il peut revenir aussi bien de jour que de nuit. Alors, avant la fin de la journée, nous pourrions être auprès du Seigneur, et je serais bien heureux de me taire pour l'entendre lui seul et le contempler face à face, quelque chose de merveilleux. Alors, si nous arrivons à la soirée, nous parlerons de Dieu dans l'Église. Dieu est dans l'Assemblée. Hier, nous avons cherché à bien comprendre qui est ce Dieu dont nous parlons et ce qu'est ce cœur qu'il nous demande de lui donner et qu'il veut habiter. Comme je l'ai souligné, nos sources pour répondre à ces questions n'étaient pas autres que les Écritures. Et je vous ai dit hier soir que ce que nous découvrions au sujet de Dieu serait valable pour les sujets d'aujourd'hui. Et comme notre frère l'a rappelé, nous avons découvert, en ouvrant nos Bibles comme cela, au chapitre 1er de la Genèse, que Dieu était le Créateur. Pas d'explication au sujet de ce que, au commencement, Dieu. Rien pour nous prouver la réalité de son existence ou pour nous définir sa nature ou nous parler de ses attributs. Tout cela, on le découvre en poursuivant notre lecture, en ne restant pas à la première page de la Genèse qui nous montre en effet Dieu le Créateur qui a amené toutes choses à l'existence par sa parole. Mais on a vu que ce Dieu était éternel. Dès le chapitre 2, il est déjà question de l'éternel Dieu. Ses morts reviennent, disions-nous, une vingtaine de fois dans le chapitre 2 et le chapitre 3 de la Genèse. C'est ainsi que vous apprenez à connaître Dieu de plus en plus. Puis, quand on arrive au chapitre 12, nous voyons que ce Dieu a appelé un homme qui vivait au milieu des païens, Abraham, et s'est révélé à lui et s'est consacré à faire son éducation. Et plus loin, nous avons vu qu'il était devenu aussi le Dieu du fils d'Abraham, Isaac, et le Dieu du fils d'Isaac, qui s'appelait Jacob. Alors on apprend que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'une certaine famille, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Et quand Jésus parlait de Dieu, qu'il appelait son propre Père, il soulignait toujours que ce père était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qu'il n'était pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, et que pour lui, tout était vivant, même ceux qui sont morts. Et c'est quelque chose de fantastique. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants, et pour lui, tout vive. Si vous avez perdu des êtres chers, et qui se sont endormis en Jésus, vous devez apprendre à les considérer comme vivants auprès de Dieu. Vivants dans un état déjà meilleur que le nôtre, parce que nous, nous sommes encore dans la chair, et nous sommes toujours tentés, tandis que ceux qu'il a déjà repris ne sont plus dans la chair, bien entendu, ils vivent dans l'attente de la résurrection et dans cette attente où ils revêtiront des corps glorieux. Mais ils sont déjà loin des luttes, loin des tentations, loin du péché, loin de toute espèce de souffrance qui peut encore nous arriver à nous. Et nous avons vu que Dieu était réellement l'éternel présent. Dans l'Exode, il s'appelle « Je suis celui qui suis ». Il est l'éternel présent. Et quand nous arrivons au Nouveau Testament, nous avons vu que ce Dieu s'était vraiment révélé dans une personne qui est appelée son Fils, et qui n'est autre que cette parole créatrice que nous avons déjà découvert dans le premier chapitre de la Genèse. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, et la parole devint chair, et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire. De sorte que nous avons en Jésus-Christ la preuve certaine de l'existence de Dieu. Si vous aviez encore des doutes, eh bien, contemplez Jésus et ayez une opinion, une conviction au sujet de Jésus. Historiquement, nous sommes dans le deuxième millénaire de l'ère dite chrétienne. Et nous avons en Jésus-Christ la preuve de l'existence de Dieu. J'ai dit que dans l'Ancien Testament, il n'était pas question d'essayer de prouver l'existence de Dieu. Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé à des hommes au cours de l'histoire, mais pour nous, la preuve certaine que Dieu existe, c'est qu'il y a eu un être qui apparu sur la terre et dans l'histoire du monde et dans un pays que l'on peut visiter encore aujourd'hui et qui s'est dit lui-même être Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ou bien c'était un blasphémateur, ou bien il était ce qu'il a prétendu être. Si vous ne croyez pas ce que je suis, quand on lui demandait qui es-tu, mais ce que je vous ai dit, et si vous ne croyez pas ce que je suis, eh bien vous mourrez dans vos péchés. Le Fils unique du Père n'est autre que l'image du Dieu vivant. Et nous avons appris ainsi qu'il était vraiment une trinité, ce Dieu unique qui veut habiter en nous. Et nous avons découvert que Dieu n'était pas seulement le créateur, mais qu'il était le rédempteur. Si Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, c'est pour accomplir cette œuvre merveilleuse que nous appelons l'œuvre de la rédemption. Nous ne vont pas seulement être créés par Dieu, mais nous avons été rachetés par Dieu de toutes nos offenses et de toutes nos fautes. Il y a beaucoup de personnes qui dans ce monde croient au Dieu créateur. Il faut bien expliquer les œuvres qui nous entourent et reconnaître qu'il y a une cause première, comme aussi on reconnaît qu'une montre n'existe pas s'il n'y avait pas un horloger. Nous n'avons pas vu l'horloger, nous ne connaissons pas, nous ne prétendons pas qu'une montre comme celle-là s'est faite toute seule. Eh bien, quand nous voyons les œuvres de la nature, il est parfaitement raisonnable de dire il y a une cause première, mais cette cause première n'est pas une puissance anonyme, c'est une personne. Et en Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté. Nous l'avons lu, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leur faute. C'est un mystère extraordinaire, mystère de piété. Il était en forme de Dieu, il était avec Dieu, et il avait une forme humaine, mais pour pouvoir mourir, prendre la responsabilité du péché dont le salaire était la mort, et c'est ainsi que Jésus, sur la croix, a porté nos péchés, est mort, a subi le jugement à notre place, pour que nous soyons délivrés de la question du péché, de la peur du jugement, et aussi de la crainte de la mort. C'est quelque chose de merveilleux. Et voyez-vous, c'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Car l'aiguillon de la mort, ce qui fait craindre la mort à tant d'hommes, c'est en fait le péché. Et si l'on a peur de la mort, c'est parce qu'au fond de notre conscience, on sait bien qu'après la mort, puis le jugement. Alors, vous voyez, quand on a la connaissance de l'Évangile, on est délivré de ces trois craintes et de ce mal. Le péché est réglé. Tandis que ceux qui croient en un Dieu créateur, ils veulent essayer, puisqu'il y a un créateur, puisqu'ils savent bien qu'ils devront peut-être comparaître devant lui un jour, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, eh bien, on voudrait lui apporter nos œuvres. Mais tant que vous êtes sur le principe des œuvres, comme le sont toutes les religions de la terre, à part le christianisme, l'évangile dans sa pureté, eh bien, ces religions ne vous donnent aucune assurance. Ni les bouddhistes, ni les hindouistes, ni les musulmans ne peuvent avoir une certitude au sujet de leur salut. Ils espèrent toujours en une miséricorde divine, mais ils ne peuvent pas être sûrs de leur salut. Je n'ai jamais rencontré dans les pays bouddhistes que j'ai visités, dans l'Extrême-Orient, eh bien, je n'ai jamais rencontré un prêtre bouddhiste pouvant dire qu'il était sûr de son salut. Tandis que, en Jésus-Christ, quand on connaît le Rédempteur, on sait que la question du péché est réglée. Dieu l'a réglée en Christ. L'expiation de nos péchés a été faite par Jésus-Christ qui a subi vraiment le salaire du péché et qui nous a rachetés. Alors nous avons souligné hier encore que l'homme avait été créé donc à l'image de Dieu. Et si Dieu est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, l'homme a été créé à son image, comme nous l'avons cité dans le chapitre 5 de la deuxième épître, de la première épître aux Thessaloniciens, au verset 23e. Nous sommes dans notre être tout entier, défini comme un esprit, une âme et un corps. Et cet être tout entier, dans son unité, esprit, âme et corps, doit être conservé, irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et alors, nous avons souligné en particulier que le Dieu qui est esprit, notre Père des cieux, veut faire sa demeure dans notre esprit. Le Fils, qui veut devenir notre véritable personnalité, veut faire sa demeure dans notre âme, pour qu'il soit manifesté que ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous, que le Christ n'est plus extérieur à nous, mais qu'il nous est devenu intérieur, puisque nous prétendons l'avoir reçu, et que le Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte comme le grand consolateur pendant l'absence du Seigneur voulait prendre possession de notre corps. Et c'est ça qui est merveilleux, et que vous trouvez dans ce chapitre 14 de Jean, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. J'espère que vous avez bien saisi ces choses. Nous avons parlé aussi du cœur, hein, et nous avons vu que le cœur, c'était toutes les activités de notre être, notre sensibilité, notre intelligence, notre volonté, nos affections, et c'est donc le centre de notre vie, le cœur. Quand il est parlé du cœur dans la parole, je lis dans les Proverbes au chapitre 4, au verset 23, il est dit « Garde ton cœur, plus que tout ce que l'on garde, plus que toute autre chose, car c'est de lui que sont les issues de la vie. Garde ton cœur. » Et ensuite, nous avons vu que ce cœur, qui est si précieux, nous devons le donner. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mais ce que nous avons pu souligner, c'est que depuis la chute de l'homme, le cœur a été corrompu par le péché. Et cela, il faut le reconnaître. Dans la Genèse, juste dans l'Apocalypse, vous trouvez les mêmes pensées au chapitre 6 de la Genèse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et ils s'en affligent. Les pensées du cœur de l'homme depuis la chute le portent vers le bas. Et c'est vrai que tout dépend de nos pensées. Car nos paroles ne sont que le prolongement audible de nos pensées et nos actions le prolongement visible de ce que nous pensons. Mais il y a toujours d'abord une pensée, puis vient une parole, puis une action. Et c'est pourquoi nous sommes appelés, comme chrétiens aussi, à veiller sur nos pensées. Et comment nourrissons-nous nos pensées, personnellement ou dans nos familles? Qu'est-ce qui nourrit les pensées de votre conjoint? Qu'est-ce qui nourrit les pensées des enfants que vous avez reçus, mission d'élever et d'aimer le Seigneur? Oui, tout a été corrompu par la chute. Et même après le déluge, au verset chapitre 8 de la Genèse, je vous cite encore un verset qui nous montre au verset 21, ce que Dieu pense. L'Éternel s'écrit « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de son cœur sont mauvaises dès sa jeunesse. » Vous voyez, fin du verset 21, il y a la confirmation, le déluge n'a rien changé, le déluge a été terminé. Une foule d'hommes qui ont eu 120 ans pour se repentir, qui ne se sont pas repentis, mais les descendants de Noé, les survivants du déluge, eh bien leur pensée, même dans l'arche, ne s'était pas améliorée, ils avaient gardé cette nature. Et si vous lisez maintenant dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9e, au sujet de ses pensées, il est dit, ou du cœur, verset 3, « Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur, pendant leur vie, après quoi ils vont où ? Chez les morts. Hein. C'est pas drôle, ça. Hein. Après tout cela, ils vont chez les morts. Et j'ai cité aussi Jérémie, chapitre 17. Je n'ai pas peur de revenir sur ce que j'ai dit hier, parce qu'il faut que ces choses soient en vous des convictions. Verset 9 du chapitre 17. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant qui peut le connaître. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Et nous avons confirmé tous ces passages par ce que nous a dit Jésus au sujet du cœur de l'homme. Et pourquoi lui ne se fiait pas à ces gens qui se disent convertis parce qu'ils ont simplement entendu l'évangile, qu'ils ont été émus parce qu'ils ont vu des miracles. Il est dit au chapitre 2 de Jean que Jésus ne se fiait pas à ceux qui prétendaient croire en lui parce qu'il connaissait tous les hommes et qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et si votre cœur n'a pas été vraiment touché, vous pouvez être ému dans une réunion d'évangélisation, vous pouvez être séduit par la musique qui crée une ambiance et qui peut-être influence votre volonté du jour pour prendre une décision, mais qui est au fond charnelle puisque vous ne pourrez pas la tenir. Au bout de quelques temps, eh bien, vous êtes comme avant, et puis vous avez plutôt été vacciné contre la nouvelle naissance. Car naître de nouveau, vous savez, c'est pas prendre simplement une petite décision. Naître de nouveau, pour naître, il faut d'abord mourir. Et puis pour mourir, il faut être bien écœuré de ce que l'on est. Il faut avoir une révélation. Et si ce n'est pas la révélation du Saint-Esprit qui vous est donnée dans la réunion de ce qu'est votre cœur, eh bien, vous pensez que ce n'est pas si mauvais que cela, oui, ce n'est pas mauvais de prendre cette décision, mais il faut plus que cela. Pour être sauvé, il faut être vu perdu, sans espoir de secours. Et alors, c'est pourquoi on dit qu'une conversion, elle vaut ce qu'elle coûte. Les conversions ne sont pas les mêmes, mais il faut vraiment le travail de l'Esprit de Dieu pour qu'on arrive à avoir horreur de soi. Et ce qu'il y a de tragique, c'est qu'immédiatement, après que les gens viennent de prendre une décision, qu'ils prétendent être convertis, on veut tout de suite les enrôler et leur donner des responsabilités. Ils ne sont pas capables. Et ils ne sont pas capables de porter ces responsabilités qu'on leur donne. Mais on voudrait les garder. Et pour les garder, on leur confie des responsabilités. il faut d'abord passer par le crible, comme l'apôtre Paul, enfin celui qui s'appelait Saul de Tarse, il a d'abord été 3 jours dans le brisement et dans la prière, et enfin quelqu'un est venu lui dire que ce n'était pas lui qui s'était décidé, mais que Dieu lui révélait qu'il l'avait choisi dès avant sa naissance, dès les entrailles de sa mère, pour en faire son disciple et le porteur de son nom parmi les nations. Et pour moi, c'est quelque chose de capital, d'apprendre, comme le disait Jésus. Vous savez, il disait à ses disciples, vous croyez que vous m'avez choisi, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et Jésus nous a montré tout ce qui était dans le cœur. Alors là, nous avons employé le mot chair. Et j'ai dit, à qui allez-vous donner votre cœur? Donc Dieu vous demande votre cœur. On a vu qui était Dieu. Mais il y en a d'autres que Dieu qui demande votre cœur. Il y a un tas d'idoles dans ce monde. Et disons que le monde en bloc, lui vous appelle et vous demande votre cœur. Alors, est-ce que vous donnez votre cœur à Dieu ou est-ce que vous allez le donner au monde? Si vous le donnez au monde, qu'est-ce que le monde y apportera dans votre cœur? Nous l'avons vu, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, comprenez bien cela. Le monde ne peut rien donner à votre cœur que ce qu'il possède. Et qu'est-ce qu'il possède? Ces 3 choses. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, et orgueil de la vie. Voilà ce qui fait le sel de la vie du monde. Parce que les choses de Dieu pour le monde sont fades. Et alors, qu'est-ce qui est le prince de ce monde, nous l'avons vu? Qu'est-ce qui dirige ses convoitises et qui établit sa puissance sur le cœur de l'homme par nos convoitises? C'est Satan, l'usurpateur, le prince de ce monde, Satan, le diable, qui a introduit le péché dans le monde et ses conséquences, la mort qui nous conduit au jugement. Et Jésus l'a bien dit à un homme religieux, ce qui est né de la chair, chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est là que je voudrais, puisqu'une question a été posée hier soir au sujet de la chair, vous soulignez combien il est important, quand on lit l'Écriture, de comprendre le sens des mots. Un même mot peut avoir dans l'Écriture plusieurs sens. Par exemple, pour que ce soit très simple, le mot « monde » que vous trouvez plusieurs fois dans la Bible, il est employé dans 3 acceptions différentes. Il a 3 sens différents. Quand vous lisez dans le psaume 24, « À l'Éternel est le monde, et toutes les choses qu'il a faites, c'est le monde, création de Dieu. » N'est-ce pas ? Qui est sorti des mains de Dieu, et le mot « monde » là a un sens cosmologique, et tout ce qui est dans ce monde, créé par Dieu, ces choses sont belles et ces choses sont bonnes. Mais l'erreur des hommes, c'est qu'ils adorent les choses plutôt que celui qui les a fait. C'est ça l'idolâtrie. On voit les choses dans le monde, elles sont belles, elles sont bonnes, il n'y a pas de mal à ces choses, mais quand on fait de ces choses une idole, alors on oublie celui qui les a fait et on devient des païens. Comprenez-vous? Nous ne devons pas adorer les choses que Dieu a faites dans le monde, mais nous devons adorer celui qui les a faites. Vous avez bien compris cela. Je veux le croire. Alors, voilà, le mot monde, c'est le contexte qui donne son sens. Qu'est-ce qu'il est dit avant, qu'est-ce qu'il est dit après. Mais maintenant, vous avez le monde dans un autre sens. Dieu a, vous connaissez par cœur, donc aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Alors, le monde ici est pris dans le sens de l'humanité. Dieu a donc aimé les individus qui forment les gens qui se trouvent dans sa création, dans le monde cosmologique, dans le monde qu'il a fait. Et il a créé dans ce sens tous les hommes de la terre. Ce n'est pas la couleur de notre peau qui change quelque chose à ça. Nous sommes tous faits d'un seul sang. C'est ce que nous déclare l'Écriture. Et Dieu a aimé tous les hommes indistinctement. Quiconque, c'est vous, c'est moi, c'est tout autre. Hein? Puis vous avez un troisième sens au mot monde, et c'est là que certaines personnes disent, mais dans la Bible, il y a des contradictions. Parce que dans l'Épître de Jean, la première épître, il est dit, n'aimez pas le monde. Alors on dit, comment ne pas aimer le monde quand Dieu dit qu'il l'a tellement aimé? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Comprenez-vous? Alors, il n'y a pas de contradiction, mais le monde dans l'Épître de Jean, c'est le monde considéré comme un système politico-religieux dans lequel Dieu n'a plus aucune place. Qui est le prince de ce monde-là, de ce système religieux, politique, tout ce que vous voulez, c'est Satan. Alors, Jésus a montré que son royaume n'était pas de ce monde. Comprenez le bien. Il règnera sur le monde dans son cosmologie, mais son royaume mettra fin au système qui se trouve dans le monde et qui est un système de justice, un système où la convoitise est permise, non seulement tolérée, mais activée par tous les médias qui nous apportent une multitude d'informations et de visions. Voilà donc le monde pris dans trois sens différents. Maintenant, le mot « chair » a plusieurs sens aussi. La chair, ce sont les parties molles du corps humain ou d'un animal, en opposition au sang qui est l'élément noble qui véhicule la vie, et en opposition aussi aux os, parties solides, résistantes, qui demeurent même après la mort et la décomposition. Alors la chair donc peut avoir ce sens de partie molle, ce que vous appelez aussi la viande. Hein. Mais le mot chair peut aussi représenter la nature humaine. Il est le Dieu de toute chair, c'est-à-dire de tout ce qui vit. Et puis, il peut représenter un être vivant, donc, mais aussi, dans certains passages, la faiblesse et le principe mauvais qui influence nos pensées vers le mal. Alors, n'identifiez jamais chair avec corps, parce que vous tomberez dans toute espèce d'erreur. Ça peut être la chair, une partie du corps, hein, des parties molles, mais chair n'est pas synonyme de corps. De sorte que quand il est parlé du mal, le mal est aussi bien dans l'âme que dans le corps. Nous avons à être purifiés de toute souillure de chair et d'esprit. C'est pas seulement le corps qui doit être préservé de toute souillure, mais c'est aussi notre âme. Et quand il est parlé de la chair, Jésus lui-même a dit, pour la sienne propre, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la chair? L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et il nous l'a montré lui-même que sa chair était faible, même une chair sans péché était faible. Parce que quand il a été à Gethsémané et qu'il a vu tout ce qui lui était présenté, quand il a eu la vision de la crucifixion de la croix, son âme a frémi dans son esprit, et puis sa sueur est devenue semblable à des grumeaux de sang qui découlaient de son front sur la terre. Il a été angoissé jusqu'à la mort. Et il a dit, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi. Jésus pouvait sentir la fatigue dans son corps de chair, comme vous aussi, vous pouvez sentir la fatigue. À midi, au puits de Sichar, vous le voyez se reposer là. Il est fatigué. Mais le mot chair peut être pris aussi dans un bon sens. Quand il dit, j'ôterai de votre être le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Eh bien ça, c'est un cœur sensible, c'est un cœur régénéré, c'est un cœur nouveau. J'ôterai de votre votre être et de votre corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Parce que le cœur de pierre, c'est le cœur dur, c'est le cœur incrédule. Mais quand le Seigneur nous donne un cœur nouveau, eh bien, il nous donne un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur sensible, un cœur qui est régénéré. Et alors, vous verrez toujours à travers l'Écriture ce combat entre la chair et l'esprit. La chair, c'est donc ce qui est visible. L'esprit, c'est ce qui est invisible. Mais vous me direz, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à la famille? Eh bien parce que, oui, j'y arrive, mais je voudrais que nous construisions les choses d'une façon solide, que vous ayez bien compris ce que nous avons voulu vous montrer hier. Et le meilleur moyen, c'est de revenir sur ce qui a été dit. Parce que quand on plante un clou, si on y va d'un coup, eh bien, on risque de le plier. Il vaut mieux revenir et frapper des petits coups pour que le clou s'enfonce. Et j'espère bien que la parole de Dieu fait son effet en vous. Je dis encore un mot sur la constitution de l'être humain. Donc nous sommes créés par Dieu. Et tout a été créé d'une façon parfaite par Dieu. Il avait créé l'homme à son image. Alors, l'esprit, c'est l'Écriture qui nous dit, était pour Dieu comme la lampe du Seigneur en l'homme. Hein? La lampe qui allait éclairer l'être tout entier. L'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur qui sonde les choses profondes du cœur. On a ça dans les Proverbes. Et puis, l'âme, eh bien, c'était la partie intermédiaire entre le corps et l'esprit. L'âme, c'est la vie psychique, c'est la vie du moi, l'intelligence, les sentiments, la volonté, la mémoire, tout cela sont les puissances de l'âme. Et puis, le corps devait être le serviteur. Le corps, c'est la partie visible de notre être. Il est fait de chair, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est la partie visible de notre être. Mais quand Dieu a créé le corps, il n'a pas créé le corps pour qu'il domine l'esprit et l'âme. Il a créé l'esprit qui devait dominer l'âme et soumettre le corps. le corps, c'est le domaine des sens. Nous avons cinq sens, nos sens sont dans notre corps. Mais tous ces sens sont utiles, sont nécessaires, sont bons, sont création de Dieu. Mais ce ne sont pas les sens qui doivent nous dominer. Alors, dans la pensée de Dieu, tant que l'homme restait en communication avec Dieu, son esprit était éclairé. Dieu est lumière. Et l'esprit de l'homme était en communication avec l'esprit de Dieu. Alors, tant qu'il était en relation avec Dieu, c'était la lumière qui éclairait l'âme. L'intelligence, la volonté, les sentiments, les affections, tout était dominé par en haut. Tout était éclairé par en haut ces facultés de notre âme qui soumettaient le corps qui était l'instrument de l'âme pour accomplir la volonté de l'esprit qui lui-même est relié à l'esprit de Dieu. Mais l'homme tout entier était sous la direction de l'esprit. Mais Dieu ne voulait pas faire de l'homme un robot. Dieu ne voulait pas que l'homme soit obligé de le servir et de l'adorer. Il l'avait créé à son image, alors il l'a créé libre. Et le créant libre, il courait un risque. C'est que l'homme dise non à Dieu. Eh bien, Dieu avait déjà couvert le risque du non à Dieu par le plan de la rédemption qui était établi avant la fondation du monde. Au cas où l'homme prenait la mauvaise décision, faisait le mauvais choix, eh bien le plan de Dieu se réaliserait quand même, mais par un chemin beaucoup plus long. Alors, quand l'homme a péché, qu'est-ce que ça a été? C'était pas un crime qu'il a fait. Adam n'a pas tué, il n'a pas volé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Dieu lui avait dit de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais il l'avait prédestiné à quoi? À la gloire de Dieu, à être comme Dieu, mais en restant dans sa dépendance, dans sa communion. Quand Satan est venu, il a essayé de faire croire au premier coup de plume que Dieu les privait de quelque chose. Et que s'il mangeait du fruit défendu, le fruit d'État, il deviendrait comme Dieu sans Dieu. Comprenez-vous? Ils deviendraient eux-mêmes indépendants, ils seraient capables de choisir le bien et de déterminer eux-mêmes ce qui était mal. Et ils sont tombés dans ce piège. Alors, qui a-t-il eu? C'est que désobéissance, ça a créé une rupture, et le courant, si j'ose dire ainsi, a été coupé, et l'esprit est tombé dans les ténèbres. Et alors, il y a eu une révolution, le diable, qui avait tenté Ève par la convoitise, la porte des yeux, la porte des oreilles, n'est-ce pas? Louis l'a tenté par les sens. Ève a subi l'attaque qui venait d'en bas par Satan, parce que Satan attaque toujours d'en bas. Alors, Satan est entré dans la place, il a dominé les sens et il a aveuglé les facultés de l'âme. Vous voyez des êtres absolument intelligents. Mais leur intelligence, ils leur croient pourquoi? Pour détruire, pour le mal, pour des folies. Pour des folies. Alors, Satan dominait en combat. Le corps est devenu le maître de la maison. L'âme est restée l'économe, si vous voulez, mais soumise au corps. Et l'esprit, dans tout cela, n'était plus que l'esclave. Il était, pour ainsi dire, mort. Et c'est bien ça. Vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la conversion? L'esprit de Dieu opère dans nos cœurs, et quand on accepte le Seigneur, eh bien, on passe de nouveau sous la direction du Seigneur. Alors l'esprit est éclairé et l'âme reçoit maintenant les nouvelles directions qui viennent d'en haut et le corps devient le serviteur. Nos membres que nous employions avant pour le péché, pour l'iniquité, nous les livrons à Dieu qui les emploie par notre intelligence renouvelée, par toutes les facultés de notre âme, pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi notre corps, votre corps, appartient au Seigneur aussi bien que votre âme. Et il n'est pas question seulement quand on se convertit de livrer son âme au Seigneur. Il est question de livrer nos corps. C'est l'homme tout entier. Mon corps appartient à Dieu, comme mon âme et mon esprit, qui maintenant est sous la dépendance du Saint-Esprit. Mais vous comprenez, l'âme ayant été si longtemps sous la domination du corps, il y a un combat. Hein? Elle a passé sous un autre gouvernement, mais elle a été si longtemps sous les directions du corps. Puis maintenant, de nouveau, il y a l'Esprit de Dieu qui dirige, alors il y a combat entre la chair et l'Esprit, comprenez-vous? Et pour en être vainqueur, il nous faut rester dans quelle dépendance? Celle de l'Esprit. Si vous ne restez pas dans la dépendance quotidienne de l'Esprit, qu'est-ce qui reprend le dessus? C'est la chair. Et comme on est dans ce monde, eh bien, vous le savez, l'amitié du monde, qu'est-ce qu'elle est, selon Jacques? Inimitié contre Dieu, comprenez-vous? Alors, si vous voulez suivre le monde, ne vous étonnez pas d'avoir des chutes et des rechutes. Mais est-ce qu'on tombe, est-ce qu'on ne se relève pas? Puisque vous avez fait l'expérience, vous n'étiez pas capable de résister aux attraits du monde, et ne séparez-vous. Comprenez que cela est mauvais, que cela ne vous sanctifie pas ce contact constant avec le monde. Et réfugiez-vous dans le Seigneur. Certes, le Seigneur ne nous enlève pas du monde, mais il nous a promis de nous garder du mal. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Et il disait, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Et c'est quelque chose de merveilleux. Quand le Seigneur est venu, il n'a pas seulement porté vos péchés. Et c'est cela que je trouve un peu déplorable. Dans une certaine évangélisation, on vous parle de Jésus qui a porté vos péchés. Et alors, c'est une bonne affaire, hein? Les péchés. Mais mes amis, vous n'êtes pas condamnés par Dieu parce que vous avez commis des péchés, vous n'avez pas demandé de l'être, pécheur. Mais vous n'avez pas seulement commis des péchés, mais vous êtes un pécheur. Et ce qui fait de vous un pécheur, c'est que vous appartenez à cet Adam, au premier Adam, qui avait une nature, qui a eu une nature pécheresse. Et alors, nous l'héritons, cette nature, que nous le voulions ou non. Alors, ce n'est pas étonnant que nous péchions. Mais si je sais que Jésus a porté mes péchés, c'est une bonne chose. Il a porté mes péchés, il les a expiés, et il les a tellement pris avec lui sur lui qu'ils sont, pour Dieu, ils n'existent plus. Est-ce que vous connaissez ça? Ne plus avoir conscience de vos péchés. Ne plus être sous cette emprise de la culpabilité. Jésus a réglé définitivement la question de vos péchés. Et quand il est mort, est-ce que vous étiez en vie? Non. De sorte que les péchés qu'il a portés, c'est les péchés de toute votre vie, puisque vous n'existiez pas. L'œuvre qu'il a accomplie vous sauve donc entièrement. Ça couvre toute votre vie. Alors vous allez dire, ça c'est bon là, mais là, j'ai pas péché. Je crois au Seigneur Jésus, mais je péche encore. Je continue de pécher, mais c'est pas cela. Jésus a fait plus que cela. Quand il est mort, il vous a vraiment pris avec lui dans sa mort. De sorte que ce que vous devez croire maintenant par la foi, je ne dis pas sentir, parce que vous n'avez pas senti qu'il avait porté vos péchés. Vous l'avez cru, puisqu'il l'a dit, n'est-ce pas? Vous l'avez cru sans rien sentir, et vous avez eu la paix avec Dieu. Mais maintenant, vous devez croire sans rien sentir que vous êtes mort. Mort avec Christ. Il vous a pris avec lui dans sa mort. Le pécheur, il est mort. Pas seulement mort, il est enseveli. Et cela, vous le rappelez dans le baptême, n'est-ce pas? Vous confessez, en étant baptisé, que comme le Christ est mort et est enseveli, vous aussi vous êtes identifié au Christ dans sa mort. Mais vous êtes aussi identifié dans sa résurrection. Alors, vous êtes ressuscité en lui, de sorte que votre vie maintenant, c'est une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle, mais qui ne vient pas de la chair. Qui vient d'où? Alors, s'il y a quelques bons fruits en vous, vous ne pouvez pas vous glorifier. Vous ne pouvez pas dire, vous savez, tu m'as converti, hein. C'est formidable, il faut que j'ai fait. C'est pas vrai. J'ai jamais entendu un authentique chrétien répondre à ça. Il dit, plus je vais de l'avant, plus je me vois loin. Et plus j'éprouve combien je suis heureux d'avoir un sauveur. Mais ça ne veut pas dire qu'on continue de pécher. Ça veut dire que s'il nous arrive de tomber, c'est qu'on a détourné nos yeux du Seigneur, et qu'alors on a eu affaire avec la chair qui toujours ferme. L'esprit est prompt et la chair. Alors, pourquoi il est dit, fuyez les convoitises de la jeunesse. N'y courez pas, parce que si vous y courez, il n'y aura pas de victoire. Mais en Christ, nous nous considérons comme morts. Est-ce un mort court? Non. Est-ce qu'un mort accepte ce qu'on lui offre? Du tout pas. Vous pouvez lui apporter les plus belles gâteries et ne répond pas. Eh bien, vous aussi, dans la foi, considérez-vous comme mort. Je dis, mais moi, je me sens bien vivant. Oui, c'est vrai. Mais c'est par la foi, c'est pour ça que nous disions, le juste vivra de la foi. Et je voudrais simplement finir sur ce sujet-là en vous disant encore que votre vieil homme, hein, parce qu'il est parlé du vieil homme, il est dit qu'il a été crucifié. Alors, ce qui reste, c'est la chair, c'est pas le vieil homme. Votre vieil homme, c'est votre ancienne manière de vivre. Chaque fois qu'il est question du vieil homme, il en est question trois fois dans le Nouveau Testament, le vieil homme est toujours considéré comme notre ancienne manière de vivre, que nous avions reçue de nos pères. Nous avons été rachetés de cette ancienne manière de vivre. Et il est dit, votre vieil homme a été crucifié. Alors, qui était père et mère du vieil homme? Le père du vieil homme, c'était le péché. Et ce péché, il se commet où? Dans la chair. Alors, nos parents naturels, maintenant, depuis notre naissance physique, puisque nous sommes nés d'un père pécheur, c'est le péché et la chair. Voilà. Alors, le péché qui domine sur la chair produit une certaine manière de vivre que le monde connaît et qui s'appelle le vieil homme. Mais, quand on se convertit au Seigneur, on a aussi un père et aussi on a une mère. Alors, qui est notre père spirituel? C'est le Saint-Esprit. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit qui est opposé à la chair nous fait renaître, mais par quel moyen? Vous avez été engendré par la parole de la vérité. L'eau est toujours le symbole de la parole. Alors, le produit de la parole et de l'esprit, cela fait le nouvel homme. Vieil homme, il est enseveli. Le nouvel homme, il est créé selon Dieu. Et les parents du nouvel homme, si j'osais dire ainsi, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. La parole qui vous donne la nourriture dont vous avez besoin, comme une mère, elle vous donne d'abord du lait, puis ensuite de la viande quand vous croissez. Et celui qui vous dirige, ce n'est plus la chair, c'est le Saint-Esprit. Vous n'avez plus à faire avec la chair. La chair est toujours là quand on est en vie, mais cette chair, elle a perdu son enfant, si j'ose dire ainsi, qui était le vieil homme. Et maintenant, ben elle est là. Je l'ai quelquefois appelée la vieille tante. Je m'excuse pour les tantes qui seraient ici. Mais j'ai eu dans ma famille une tante en particulier et qui excitait un peu ma mère parce que ma mère avait des enfants, elle nous élevait. Mais la vieille tante pensait qu'elle savait mieux faire que ma mère. Elle voulait toujours donner des conseils. La chair, elle est toujours là, hein, et elle voudrait toujours nous influencer. Mais nous n'avons pas d'affaire avec la chair. Nous ne sommes plus débiteurs à la chair. Elle est là, mais nous ne sommes plus débiteurs à la chair. Ce qu'elle voudrait, la chair, c'est nous faire dégénérer, aller reprendre les habitudes du vieil homme. Aller déterrer le vieil homme, puis reprendre au fond les habits du vieil homme. Alors il y aurait opposition entre hommes et les habits. Que le Seigneur nous garde. Le nouvel homme, c'est l'être régénéré. Le vieil homme, c'était l'être irrégénéré. Mais quand je pêche, qu'est-ce qui m'arrive alors? Je dégénère. C'est une chose que je n'ai plus à faire. Et je suis entièrement maintenant dans la voie du Seigneur. Ce Dieu dont nous vous avons parlé hier, c'est le Dieu bienheureux, c'est le Dieu de paix, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu de miséricorde, de vérité, de justice et de grâce, et c'est lui qui est dans votre cœur. C'est lui qui est dans votre cœur, de sorte que votre vie doit être une vie heureuse et une vie bénie. Je m'en vais entrer maintenant dans la famille, mais peut-être que vous auriez besoin de vous lever un moment, bien vous en avez assez. C'est bien que je n'ai pas encore commencé mon sujet. Mais ça fait rien, parce que j'ai compris que je n'étais pas là pour avoir l'air d'être un prédicateur qui sait bien se conduire, mais d'être l'instrument de Dieu pour que certaines choses dont on parle si peu s'éclairent, que vous sachiez ce que c'est que le vieil homme, et que vous ne disiez pas c'est mon vieil homme, il est mort. Alors c'était le déterré, c'était reprendre ses habits, oh, on l'avait embaumé, mais j'avais mis son dernier partout. Et maintenant vous allez retirer tout ça. Laissez l'homme et ses habitudes. Les habits du vieil homme, vous les trouvez dans le chapitre 3 des Colossiens. Les habits du nouvel homme, vous les trouvez aussi dans le chapitre 3 des Colossiens. Mais il y a des choses qu'on a dépouillées. Le vieil homme et ses habits, il est mort. Maintenant, c'est le nouvel homme. Alors, les habits du nouvel homme, c'est des entrailles. Il y a des sous-vêtements, des entrailles de miséricorde, monsieur. Toutes ces choses-là qui sont tellement belles, il y a un par-dessus, le lien. L'amour est le lien de la perfection. Alors voilà des habitudes présentes. On chante un cantique, peut-être, juste pour que vous permettez de vous lever. Puis on y arrivera. Mais vous verrez que ce que nous avons vu cet après-midi vous aidera à comprendre ce que nous allons voir tout à l'heure. Vous avez entendu? Détendez-vous le plus possible.
À la gauche de son trône, le Bertrand.
Amen.
même les amis, je vous ai dit combien il était important de bien comprendre la signification des mots. On a vu ce que c'est le mot cher, les différentes acceptions, le mot monde, mais maintenant la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille? Eh bien, c'est l'ensemble des habitants d'une maison, de la maison, ou des personnes qui sont issues du même sang. Alors, la famille normale, d'après l'Écriture, je dis bien la famille normale selon Dieu qui l'a créée, est formée d'un homme qu'on appelle le mari, d'une femme qui est l'épouse et d'enfants, si Dieu les donne, hein, car un enfant, c'est un don de Dieu. Et là, j'ai dit la famille, Dieu dans la famille. Ce petit mot don, comme j'ai dit Dieu dans le cœur, c'est une préposition, vous le savez, hein, qui veut dire à l'intérieur. Et quand je vous ai parlé de Jésus, c'est pas un Jésus extérieur, hein. C'est pas un Dieu extérieur, c'est un Dieu intérieur. Il est dans votre cœur. Il est tout au fond de vous-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu n'est pas là-haut, au fond du ciel, très loin de vous. Il est un Dieu proche et il veut habiter en nous. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure. Chez lui, ce n'est pas une affaire sentie, c'est une affaire de foi. Alors, je vous demande très affectueusement, d'après votre expérience, est-ce que Dieu est dans votre famille? Hier soir, je vous ai laissé rentrer chez vous. Est-ce que Dieu était dans votre cœur? Ou bien est-ce que vous aviez simplement entendu parler de Dieu? Est-ce que vous aviez une connaissance peut-être plus approfondie de ce qu'est Dieu? Ou bien, est-ce que vous avez réalisé que vous étiez un homme habité? Pas par des doctrines, pas par des principes simplement, mais par quelqu'un. Une personne qui vous habite. Vous êtes habité, vous êtes le temple du Dieu vivant. Alors, Dieu est-il dans votre famille ou hors de votre famille? Vous qui dites que Dieu est en vous. Voyez-vous, nous sommes dans des temps fâcheux, dans des jours difficiles où l'intégrité de la famille est mise en brèche par le monde. La manière de vivre de plusieurs baptisés est pire que celle des païens. Nous vivons en pleine apostasie, c'est-à-dire dans le rejet des vérités élémentaires et essentielles du christianisme. Et cela au sein même des églises et de nos familles dites chrétiennes. Autrefois, on parlait de familles pauvres, hein, vous avez entendu parler de ça au Québec, peut-être qu'on en parle encore aujourd'hui, de familles nécessiteuses, de familles nombreuses, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, de familles en deuil. Mais aujourd'hui, il est surtout question, même chez les enfants, non, c'est qui m'en a parlé, on parle de familles monoparentales, de mères célibataires, de couples homosexuels, des gays ou des lesbiennes. On nous parle d'amour libre, de concubinage, de divorce, de mariage à l'essai, de cohabitation. Et on veut encore que ce soit des familles heureuses. Et jusque dans les familles, n'ayant pas tourné le dos à toute religion, qu'est-ce qu'on y trouve surtout? La préoccupation matérielle, l'argent, ça domine. Mais on y trouve aussi l'alcool, la drogue, sont entrés même dans des familles dites chrétiennes. l'infidélité conjugale, la séparation, le divorce, l'adultère, la dénatalité, l'impudicité, la contraception, l'avortement, les enfants malheureux, les femmes battues et les suicides de moins de 20 ans. Et vous savez ce qui est vrai, c'est que d'après les statistiques les mieux établies, c'est le Québec qui est en tête du monde pour les suicides des jeunes. D'avant 20 ans, vous avez des suicides à 12 ans, mais vous en avez une multitude qui s'enlève la vie avant 20 ans. Et dans le monde entier, c'est le Québec qui a la paille. Et vous savez, j'aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Mais, mes amis, permettez-moi de vous poser une question. Qu'avons-nous introduit dans nos foyers pour que même dans nos milieux évangéliques, on puisse souffrir de telles choses? Personne ne dira que l'on a introduit le diable. Mais je pourrais dire qu'on y a introduit le monde. En vous rappelant que le prince de ce monde n'est autre que Satan. Et comme la puissance nucléaire que les chefs d'État craignent de plus en plus de ne pas pouvoir maîtriser, est-ce que nous n'avons pas introduit dans nos maisons, dans nos demeures, un objet remarquable, mais incontrôlable? Ce qu'un journal satirique de Paris appelle ces étranges lucarnes. Et ce que la Bible appelle un cabinet d'images, devant lequel les petits enfants sont déjà couchés regardant cela, et meublant leurs petites pensées de toute espèce d'image. Puis on dit, ne comprennent pas, c'est le babysitter. Vous avez compris de quoi je veux parler. Et puis, qu'on ne vienne pas me dire que ce qu'on a introduit dans nos maisons, c'est le plus puissant moyen d'évangélisation pour faire connaître le Christ au large. Vous croyez encore cela? Si vous êtes chrétien, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'être évangélisé. Vous connaissez l'évangile, alors ne me dites pas que vous avez cela. C'est autel qui prend tellement de temps, qui est devenu une idole pour plusieurs. C'est beaucoup plus facile de regarder une émission religieuse à la télévision que de venir à une réunion. Parce qu'à une réunion, on se frotte avec des gens, des hommes, des femmes qu'on doit supporter, qui nous disent peut-être des paroles qui ne sont pas toujours aimables, qui nous sourit peut-être pas toujours. C'est beaucoup mieux de faire des sourires à la télévision. Puis ils sont tout le monde bons, ceux de la télévision. C'est comme dans un salon funéraire. On n'a jamais vu. On est tout le temps paumé. C'est ça. Tandis que quand on vient ici, on n'était pas en paumé. Moi, je ne supporte pas son odeur. Et à la télévision, il peut avoir mangé de l'ail, je t'en dis. Alors voilà, on justifie ce que l'on a dans nos maisons, le monde sous notre toit. Et voyez-vous, on nous parle des émissions religieuses, l'homme des émissions religieuses, l'homme de l'image, l'homme de l'enregistrement. Voyez-vous, ça ne remplacera jamais un serviteur présent. Et vous verrez que bientôt, vous aurez des robots évangéliques pour vous apporter l'évangile. On a les bras bien les faire, puisque on fait même pour nos enfants maintenant des poupées carrosses. Comme jouer, pressé sur le ventre de la poupée, il y a deux gosses. Bien leur montrer comment ça se fait. Alors quelqu'un a dit, pour être vraiment moderne, il faudrait faire la poupée qui aborde. Vous savez, le monde, il a encore la tête sur les épaules quelquefois. Et il voit beaucoup plus clair que les chrétiens qui s'extasient. Il y a une grande tour, il y a un bonhomme qui va prier au haut de sa tour. Et qui demande 1 million sans sa Dieu va le faire mourir. Vous avez vu tout cela? Vous croyez que c'était comme cela que les hommes de Dieu étaient autrefois? Quand Élie, un homme en même passion que nous, demandait la pluie pour le monde entier, pour après ces 3 années de sécheresse, il ne montait pas sur une tour, il se prosternait, il mettait son front dans la poussière, et il priait à Dieu qu'il ne demandait pas d'argent. Et quand un homme peut envoyer 1 million pour que le type ne meure pas, en se moquant de lui, parce que jusqu'ici, il y a des gens qui ont des fortunes, ça ne compte pas de donner 1 million. Alors on dira que c'est Dieu qui a répondu. Mais je m'adresse à votre intelligence, je m'adresse à votre conscience, je m'adresse aussi à votre tête. C'est l'heure de nous secouer. Parce que vous savez, il y a un jour contre les hautes tours, lisez le chapitre 2 du prophète Ésaïe, versets 12 à 21. Mes frères bien-aimés, pères, mères de famille et enfants nés en ces jours qui sont les derniers, comme nous dit l'apôtre à Timothée, chapitre 3, verset 1, ne cherchons pas d'excuses. Et ne pensons pas qu'il est plus difficile pour Dieu d'intervenir dans un homme vivant présent avant l'an 2000 qu'au jour d'Abraham. Au jour d'Abraham, il y avait des difficultés. Au jour d'Isaac, de Jacob, d'Anne, de Marie, de Pierre, de Paul, ou de Jacques, ou même de Jean. L'auteur du dernier livre du Nouveau Testament, que vous connaissez, est l'Apocalypse, c'est-à-dire une révélation de Jésus-Christ, comme le Cantique des Cantiques est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, et non pas, comme certains le croient, un livre érotique dans la parole, parce qu'il parle des saints, du ventre, des langes, des jambes, de parfums et de baisers. Mais tout cela n'est pas mauvais en soi. Tout cela a été créé par Dieu. Et voyez-vous, dans la Bible, on peut parler de tout. Il n'y a pas de tabou dans la Bible. Mais tout est saint. Alors il nous faut lire ces choses avec des yeux nouveaux. Les yeux du nouvel homme. Les yeux du cœur régénérés, les yeux de l'esprit. Non, ne cherchons pas d'excuses. Voyez-vous, au travers des âges, les patriarches, Moïse et les prophètes, les rois, les exilés, les disciples du Christ, ses apôtres, et ceux qui ont porté témoignage jusqu'à nos jours, ils ont connu et ils connaissent des mauvais jours. Mais quelle est leur consigne? Sois fidèle jusqu'à la mort. Plutôt mourir que de pécher. Et quelle était leur force, et quelle est encore la force du vrai chrétien? C'est une foi totale. Mais Jésus le dit. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. C'est un amour brûlant. Et ce que nous constatons, c'est qu'à cause de l'iniquité, parce que l'iniquité prévaut partout, l'amour de plusieurs s'est refroidi. Les chrétiens ont perdu le premier amour. Matthieu 24, verset 12. un amour brûlant. Oui, ils brûlaient d'amour, puisqu'ils avaient aussi une espérance vivante. 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Alors, n'allons pas chercher de remède ailleurs que dans la parole vivante, et qui est appelée permanente. 1 Pierre 1, verset 23. Qui nous crie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle nous crie, cette parole? Repentez-vous. Produisez des fruits qui conviennent à la repentance. Matthieu 3, verset 6. Comme Jean-Baptiste. Croyez à l'évangile, mais croyez d'une foi qui n'est pas une adhésion intellectuelle, une information sur le salut, sur le plan du salut. Quelqu'un me disait l'autre jour à Rouen, vous savez, hein, j'avais bien compris le plan du salut, mais je n'avais pas saisi ces vérités que nous avions apportées par le pas de ce sujet-là. Mais vous voyez, on a le plan du salut, mais le plan du salut ne vous sauve pas. Vous pouvez savoir l'état de foi spirituel, c'est pas l'état de foi spirituel qui vous sauve, c'est qui? C'est Jésus. C'est quelqu'un que vous avez reçu qui vit en vous. Oui, croyez d'une foi qui est une obéissance que je dirais amoureuse à la parole, à cette parole qui est plus qu'un livre, mais qui est une personne qui vous aime et qui souffre de voir que son nom est sur vos lèvres, collé sur votre voiture automobile, un texte biblique peut-être, ou dans vos demeures, des textes sur les murs. Mais au fond, on voit tous ces textes dans nos demeures, mais est-ce que Dieu est dans nos demeures? Est-ce que Dieu est dans la famille? Il y a des textes bibliques, bien sûr. On dit que Dieu est le chef de cette maison, mais au fond, est-ce que vraiment il est le chef de cette maison? Le Seigneur est tout de voir son emploi, son nom, que son nom est sur nos lèvres, mais que nos cœurs sont souvent fort éloignés de lui. Et voyez-vous, nos familles, ce dont elles souffrent, c'est de 3 mots. L'absence de Dieu. Alors on vient le trouver à l'église, hein, dans l'assemblée. Alors là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais quand on est à la maison, on ne sent pas tellement la présence de Dieu dans notre famille. La présence de Dieu, parce qu'on s'est éloigné de lui, comme Caïn. Ce qu'on souffre dans nos maisons, c'est le silence de Dieu. Et c'est de notre faute aussi. Si Dieu est silencieux, c'est parce qu'un jour il a parlé, et qu'est-ce que les hommes ont dit? Qu'on n'entend plus sa voix. Que toi, Moïse, tu nous communiques ce qu'il te dit. Mais qu'on n'entend plus directement sa voix. Qui peut subsister quand on entend sa voix? Et puis, je dirais en 3e mot, c'est la mort de Dieu. Il y a des familles chrétiennes où quand on y entre, c'est comme un salon funéraire. Ça sent la mort. Et c'est un jugement de Dieu. Dieu dit que si nous ne marchons pas vraiment avec lui, il sera pour nous une pourriture. Dieu lui-même dit qu'il sera comme une pourriture. Ça sent mauvais dans nos foyers. Même si on n'a mis du parfum, la bonne odeur de Christ n'y règne pas. Et voyez-vous, ces 3 mots, absence de Dieu, silence de Dieu, mort de Dieu, sont des jugements de Dieu qui doivent commencer par sa maison. Et sa maison, c'est nous. Oui, notre cœur est la première maison de Dieu. Puis, l'Église est la maison de Dieu aussi. Mais, après notre cœur, vient nos familles. Ces familles qui ont été créées selon Dieu, pour qu'elle glorifie Dieu dans la vie à deux, par un mariage qui doit être selon les Écritures. Ne vous mettez pas sous un jour mal assorti avec les infidèles. Dimanche, je voyais une jeune fille qui connaît le Seigneur, mais qui fréquente un jeune homme qui n'est pas au Seigneur. Elle a essayé de l'amener à la réunion. Il adorait. Il n'était pas du tout intéressé. Alors, cette jeune fille a dit après, je sais très bien, je sais trop bien ce que je dois faire. Mais comme on a peur de ne pas se marier, alors on passera par-dessus, puis on dira, mais le Seigneur peut l'amener quand même. Vous commencez par une désobéissance et vous voulez qu'on bénisse votre union. C'est pas possible. Elle vous dirait, ben, je peux toujours me divorcer. Et oui, oui, tu changeras de partenaire. Voilà où on en est. Puis on se réclame du Seigneur. Puis on divorce, puis on se remarie. Puis tout en étant divorcé et remarié, on prétend qu'on peut annoncer l'évangile. Il y a énormément de pasteurs qui sont divorcés, frère. Que maintenant tout est permis. Parce que maintenant, tout est possible. Ce sont des temps d'apostasie. Mais on dirait, mais alors, votre tableau, il est trop sombre. Qui peut être sauvé maintenant? Bien oui. Qui peut être vraiment sauvé? Qui est-ce qui a posé cette question à Jésus? Ses disciples. Quand ils ont vu le jeune homme riche, qui avait toutes les qualités possibles, et qui ne suivait pas le Seigneur. Et que Jésus a dit, qu'il est difficile aux gens riches d'entrer dans le royaume des cieux. Ils ont dit, mais qui peut être sauvé? Et Jésus a dit, pour les hommes, cela est impossible. C'est une impossibilité. Alors ne me parlez pas d'un salut facile. Le salut, il n'y a qu'à. Hein? Il n'y a qu'à croire. Si vous croyez, vous c'est le salut, il n'y a qu'à. Non, c'est pas un salut. Le salut, c'est Jésus. Jésus pris au sérieux. Jésus qui nous dit qu'il est un avec